Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui à la Friche, la Belle de Mai se déroule Zinc Campus, un rendez-vous annuel proposé par Zinc avec le DSA Design Graphique du lycée Saint-Exupéry à Marseille et Satis, département audiovisuel d'Aix-Marseille Université. Alors si vous venez à la Friche, passez rencontrer les étudiants au Media Lab. Ils vous présenteront leurs travaux de fin d'année. C'est assez passionnant. Mais avant de venir les rencontrer, nous vous proposons une heure d'émission pour parler du devenir professionnel de ces étudiants. Comme vous le savez probablement, Radio Grenouille a ses studios à la Friche, la Belle de Mai à Marseille. C'est un pôle artistique et culturel, lui-même situé très près d'un autre pôle, le pôle média, plus axé sur les industries créatives. Si on considère que la Friche relèverait plus des industries culturelles. Comme on dit aujourd'hui, nous sommes dans un quartier créatif. C'est tout un pan de la nouvelle économie qui se développe avec les métiers artistiques, culturels, créatifs et numériques. On dit que ce sont des filières stratégiques, créatrices d'emplois et de richesses. Or, quand on a 20 ans et qu'on finit ses études, étant forcément emballé par la Startup Nation voulue par Emmanuel Macron, l'économie numérique et ses réussites fulgurantes, est-ce vraiment le sens à donner au travail? Quelles alternatives pour les étudiants des filières créatives et culturelles? Quid de la question de l'économie sociale et solidaire? Bref, au sortir de ses études, quelles expériences imaginer pour se former son propre point de vue sur son futur professionnel ou expérimenter pour décider si on a envie de rejoindre une grosse boîte de jeux vidéo ou monter une association pour proposer des ateliers. Une petite heure avec des invités qui vont répondre à tout ou partie de ces questions. Je vais laisser Margot présenter les invités.
Merci beaucoup Céline et bonjour à toutes et à tous. Alors il y a beaucoup de monde pour cette émission, je vais faire un rapide tour de table. Alors pour commencer, Sylvia Andrian-Tima-Invendi, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes co-directrice du programme La Hive, donc c'est le programme étudiant de The Camp. Donc pour ceux qui ne connaissent pas encore The Camp, c'est le campus européen consacré aux technologies émergentes et aux nouveaux usages qui va ouvrir en octobre 2017 si je ne me trompe pas. Donc La Hive, c'est une résidence collaborative qui va réunir 20 personnes sur une période de 6 mois. Le but, donc, c'est de réunir des personnes qui vont réfléchir à des solutions concrètes à des problématiques portées par des acteurs privés, publics ou issus du monde académique et du monde de l'art. C'est bien ça ?
Oui, c'est à peu près ça. Donc en fait, déjà la Hive, c'est pas vraiment un programme, c'est plus une résidence vraiment. Et puis effectivement, on s'adresse aux étudiants, mais pas uniquement. L'idée, c'est de ne pas avoir de discrimination sur la question du diplôme. Et je pense que c'est vraiment une question qu'on doit aborder dans cette émission. C'est-à-dire aujourd'hui, on s'adresse à des jeunes, qu'ils soient diplômés ou non diplômés, mais surtout, on s'adresse à des talents qui ont envie de faire et d'expérimenter. Expérimenter des choses. Voilà. Et le but, c'est pas forcément, comme tu disais, de trouver des solutions. Enfin, oui, c'est de trouver des solutions, mais le but, c'est surtout de faire, de créer, d'innover. Et on y reviendra sûrement, puisque tout ça, c'est vraiment très fortement lié à The Camp que je présenterai tout à l'heure.
Alors, on a aussi Anne-Catherine Séard, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes enseignante en art appliqué au DSA, donc diplôme supérieur en art appliqué. C'est bien ça ?
Oui, c'est exactement ça.
Donc vous suivez ces étudiants qui sont dans ces domaines-là ?
Tout à fait, pendant 2 ans.
Pendant 2 ans, que vous les accompagnez aussi à la sortie de leurs études, souvent ?
Souvent, oui. En tout cas, on les revoit, on tisse des liens assez longs avec eux. Pas tous, mais avec un certain nombre.
Donc, notamment Ambre Simon qui est aussi là. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes une ancienne étudiante du DSA.
C'est ça.
Et donc, vous faites maintenant partie de Jeunes Sardines, qui est une association qui a pour objet de diffuser et de rendre accessibles les arts graphiques. Donc, on en reparlera peut-être, par le biais d'ateliers, notamment dans les structures culturelles ou les écoles.
C'est ça.
Et donc, vous avez fait aussi partie de La Ruche pendant 6 mois. Vous avez suivi une formation à La Ruche.
Voilà, on a été... pas vraiment incubé, mais en fait on a fait partie d'un programme qui s'appelle MQ, qui permettait à des structures émergentes d'avoir des locaux à disposition pendant 6 mois.
Et maintenant vous êtes
et voilà, et après maintenant
relativement autonome.
Voilà, on a créé après un atelier de notre côté avec plusieurs autres collègues qui nous a permis d'être un peu plus autonome, mais c'est vrai que La Ruche nous a vraiment aidé à se développer, donc on en parlera sûrement tout à l'heure.
Et enfin, nous avons Julien Kirsch, bonjour.
Bonjour.
Alors Julien est un ancien de Radio Grenouille qui a fait partie pendant 6 ans de Radiolab, donc un réseau de médias étudiants,
ouais.
Et qui est maintenant qui travaille à Urban Prod.
Tout à fait.
Peut-être un mot sur Urban Prod.
Urban Prod, donc, c'est une structure, on va dire, socio-culturelle. On va dire qu'elle a un pied dans le social et le culturel, qui fait de la production audiovisuelle, mais qui travaille aussi sur la question du numérique et de la diffusion des usages et de la médiation autour du numérique, à les grandes écoles du numérique, et propose aussi des formations autour de ces usages. Voilà.
Et un mot rapide peut-être sur Radiolab, donc c'est un réseau de médias étudiants que vous accompagnez.
Alors, Radiolab, c'est un projet porté par Radio Grenouille en partenariat avec Aix-Marseille Université. Moi, je suis arrivé dans Radio Grenouille par Radiolab en tant que participant, puis je m'en suis occupé. J'ai été recruté par Radio Grenouille et puis j'ai développé Radiolab. Au début, c'était vraiment un atelier d'initiation aux pratiques radiophoniques. C'était vraiment circonscrit à ça. Et au fur et à mesure, on l'a développé sur un aspect plus large, qui est de l'accompagnement de projets médias portés par des jeunes et des étudiants. On fait la distinction, parce que quand on est jeune, on n'est pas forcément étudiant. Et quand on est étudiant, des fois, on n'est pas jeune. Donc, on essayait d'embrasser un peu large. Voilà.
Merci beaucoup. Donc, merci pour cette présentation. Alors, pour commencer peut-être cette émission, j'aimerais vous poser une question. En quoi les dispositifs dans lesquels vous vous insérez sont-ils des espaces dans lesquels, quand on est étudiant, on peut se projeter vers un avenir professionnel, un peu comme une sorte de sas, peut-être, avant d'entrer dans le marché du travail? Peut-être, Ambre, toi qui as fait partie, du coup, qui a connu cette expérience-là d'étudiant puis création de projet, comment vous avez vécu
Alors nous déjà, donc quand on créé l'association, donc je sais pas si pour rappeler, on fait du graphisme participatif, donc on permet aux gens de personnaliser des supports de communication, donc que ce soit des flyers, des affiches, même des logos ou des fresques, avec des outils qu'on crée nous-mêmes, donc ça peut être du tampon, du pochoir, du sticker, donc on développe un univers graphique pour les structures qui nous engagent en fait, donc les structures culturelles ou les écoles, et donc le public est invité à se réapproprier cet univers. Et donc, on a créé ça en se disant, donc on a quand même un bon réseau sur Marseille, mais c'est vrai que pour s'ancrer dans l'économie sociale et solidaire et développer un peu tous les gens qui nous entourent, la ruche a été vraiment un tremplin, parce que c'est vrai qu'on était vraiment au centre de l'économie sociale et solidaire grâce à tous les acteurs qui étaient sur place. Et donc, on avait accès à plein d'événements qui sont créés justement à la ruche ou avec tous les partenaires. Et on pouvait, nous, se présenter, rencontrer les gens qui étaient dans notre domaine ou pas, et qui, justement, pouvaient nous permettre de nous développer et de créer des liens plus importants, justement, dans ce domaine-là.
Alors, justement, cette question du réseau, elle est assez importante, j'imagine, pour vos étudiants, Anne-Catherine.
Bah oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, nous, nos étudiants, quand ils entrent en diplôme supérieur d'art appliqué, ils viennent d'un BTS. Ils savent qu'ils veulent faire du design, mais en fait, le cadre dans lequel ils l'ont pratiqué est un cadre des programmes ou des référentiels avec un ensemble de pièces à constituer dans lesquelles eux n'ont pas forcément choisi de définir des axes qui leur sont propres. Et le but du DSA, c'est déjà de dire qui on veut être, quel type de design on veut pratiquer, donc s'engager. En même temps, il faut être mobile, c'est-à-dire être capable de livrer des objets à d'autres qui vont se les approprier en laissant la place pour cette appropriation. Et enfin, il faut comprendre comment un territoire est capable de comprendre le territoire, en fait, pour comprendre où sont les besoins, quels sont les gens avec qui on va pouvoir s'associer, comment on va comprendre. Souvent, par exemple, Zinc, ce qui est génial, c'est que ça aide à comprendre comment les projets peuvent se conduire sur le territoire, par exemple. Et puis, rencontrer des gens auprès desquels on n'est pas un étudiant, mais on est quelqu'un qui arrive avec un certain nombre d'envies, de compétences, et qui va rencontrer d'autres personnes. Donc, dans un propos qui rappelle ce que tu disais sur la Hive, Sylvia, c'est-à-dire dans un contexte où, en fait, les liaisons sont des liaisons, enfin, des relations qui se redéfinissent et qui ne sont plus celles de l'école.
Donc, tu venais d'en parler, donc là, cette question des besoins, notamment dans le marché du travail, du territoire. Est-ce que ces lieux, ces structures dont vous faites partie permettent peut-être de combler un marché du travail, enfin de combler, pas de combler, mais de pallier à des difficultés d'insertion dans le marché du travail dans ces industries créatives?
Alors, Sylvia. Moi, je reviendrai sur cette idée que vous avez commencé à tisser de réseau. Tu as parlé de réseau, et puis là, on vient de parler de la relation entre le DSA et Zinc. Et c'est vraiment le cœur du sujet de The Camp, qui est non pas un campus, comme tu l'as dit, dédié aux nouveaux usages, mais aux technologies émergentes et à l'innovation sociale. Et ça, c'est très important. C'est le sens qu'on veut donner au travail. C'est une question que posait tout à l'heure Céline dans son introduction. Quel sens on veut donner au travail? Est-ce qu'on veut tous faire la Startup Nation? Ou bien est-ce qu'on veut s'engager sur des valeurs pour notre société? Et c'est vraiment le propos de The Quimp aujourd'hui, qui est de dire on est dans un monde complexe, on a des grands défis à relever au niveau de notre société, de notre humanité, l'éducation, la mobilité, les ressources, le changement climatique, etc. Et en face, on a ces technologies émergentes qui sont reprises par cette industrie créative dont on parle aujourd'hui, là, par toutes ces industries créatives, et qui offrent énormément de potentiel. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait et comment est-ce qu'aujourd'hui cette jeune génération va se saisir à la fois de cette complexité du monde et de toutes ces opportunités qu'offrent les industries créatives et grâce aux technologies et au numérique pour peut-être développer des activités qui auront du sens. Et cette question se pose vraiment au niveau de l'écosystème dans lequel on a envie de se développer. C'est ça qu'on a voulu créer en créant The Quimp. C'est vraiment créer un lieu de vie, un lieu de travail où les écosystèmes vont se frotter, se chahuter, créer ensemble, innover ensemble, de la start-up d'Emmanuel Macron, comme tu disais, à l'étudiant du DSA, en passant par des jeunes collégiens, des chercheurs, des doctorants, des grands groupes qui sont nos partenaires, et les jeunes talents créatifs qui seront en résidence à la Hive. Donc c'est vraiment ça le sens, c'est de créer un écosystème qui va permettre d'envisager les choses un peu différemment, de créer un peu différemment, mais surtout de garder ce sens qui est celui que tu appelles toi l'économie sociale et solidaire. Nous, on parlera plus d'impact positif pour la planète. Voilà.
Ça manquait un peu dans la région des lieux comme ça, justement, pour créer un écosystème.
Alors, je ne sais pas si... un lieu comme The Quimp, il n'y en a pas en Europe. C'est le premier campus européen de ce type-là. C'est un espace qui fait 7 hectares. Il y a 200 logements. L'idée, vraiment, cette ambition d'être à la fois un lieu très connecté au local, à la métropole, mais en même temps d'être très connecté à des enjeux mondiaux et à des experts internationaux et à des pionniers, en fait. Hein. L'idée, c'est un lieu qui est ouvert aux pionniers, c'est-à-dire aux gens qui ont envie de se saisir d'opportunités pour changer le monde. Alors, c'est un peu, nous, on dit souvent la mauvaise nouvelle pour les pessimistes. Hein. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment d'être dans une démarche optimiste et de se saisir de la complexité pour aller vers des opportunités. Mais des lieux comme ça, des tiers-lieux, hein, si on se déplace un peu, évidemment, des lieux comme The Quimp, c'est assez extraordinaire et en Europe, je pense, c'est unique. Mais des lieux où on a posé cette question de la relation entre le travail, la recherche, la création et les études, évidemment qu'il y en a, ce sont les tiers-lieux. Et évidemment qu'ici, à la Friche, on a été dans les premiers lieux en France à expérimenter ça, avec un côté un peu punk, où on s'installe dans des lieux. Au départ, c'était quand même ça. Donc, en effet, les tiers-lieux reviennent de plus en plus aujourd'hui, se développent. Et c'est vraiment ce constat qui est fait de vouloir créer des lieux qui sont à la fois des lieux de vie et des lieux de travail.
Julien, peut-être, donc toi, ce n'est pas des structures diplômantes, mais en même temps, vous accompagnez des jeunes ou des moins jeunes dans le cadre du Urban Prod pour avoir acquis une expérience professionnelle.
Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, Urban Prod, c'est une grosse structure, une grosse structure, tout est relatif, mais il y a quand même 60 personnes qui sont au quotidien à Urban Prod. C'est un tiers-lieu, ça rejoint un peu ce que tu disais. Il y a plusieurs actions. Donc, quand on parle du tiers-lieu, pour répondre à cette question du tiers-lieu, c'est déjà un lieu qui existe dans le quartier, qui est visible, qui donne envie de rentrer. Là, nous, ça se présente un peu comme un café. On ne sait pas si c'est un café, si c'est un cyber. D'ailleurs, ça ressemble un peu à un cybercafé, mais ça n'existe plus trop, les cybercafés. Donc, mais ça reprend un peu ces codes-là. On peut rentrer. Il y a toujours quelqu'un qui est disponible pour vous accueillir, pour vous offrir justement un thé ou un café. Et vous pouvez vous installer, soit pour aller sur Internet, soit pour rencontrer des gens et peut-être participer à des projets. Alors évidemment, les gens, quand ils rentrent, ils ne peuvent pas participer à n'importe quel projet. Urban fait de la prestation, est présente sur des manifestations. Donc là, ce sont vraiment des actions professionnelles. On ne va pas forcément tout de suite accueillir des gens comme ça, qui viennent, qui débarquent, qui découvrent le lieu. Mais par contre, on a des temps, des créneaux dédiés, qui s'appellent les temps libres, ces temps libres en fait sont vraiment des moments d'accueil où les gens peuvent venir, en fait les gens peuvent venir quand ils veulent, mais sur ces créneaux là on leur propose un accompagnement un peu plus ciblé avec de l'activité un peu plus spécifique autour de pratiques qui associent la question de la création, donc ça va être faire des petits films, faire du stop motion, travailler sur des questions d'image, mais moi personnellement par exemple qui viens de la radio, je travaille autour du podcast, donc j'ai fait la Podcast Factory, c'est un atelier où on accompagne les gens sur leur idée, mais aussi après sur la production, la réalisation, la diffusion, donc Podcast Factory ça c'est une chose. Mais après on a aussi le samedi matin par exemple on accueille les gens qui sont en difficulté, qui savent pas comment mettre une clé USB dans leur ordinateur, donc on est sur différents publics. Dans ces tiers lieux il y a forcément des jeunes qui rentrent, qui viennent avec des désirs, des questions, des envies, des projets. L'idée c'est de les écouter, de voir ce qu'on peut faire. On garantit pas qu'on va rentrer dans le projet avec eux et qu'on va les suivre, qu'on va leur donner les moyens, mais on va essayer en tout cas de voir dans quelle mesure ça peut résonner et comment on peut les mettre en relation et comment peut-être ça peut aussi résonner avec des projets d'urban, et dans ce cas-là, il y a un partenariat qui peut se monter. Si je fais le parallèle avec Radiolab, la démarche est toujours la même, hein. Radiolab ça continue, j'y suis plus mais ça continue toujours.
C'est plus pareil.
Et l'idée, c'est vraiment d'accueillir des gens, des jeunes. Là, pour le coup, c'est vraiment des jeunes et des étudiants qui sont dans une action de médias. Alors, soit ils en sont au stade du concept, de l'idée, soit ils sont allés un peu plus loin, ils ont commencé à en faire un. Et puis, parfois, on rencontre des difficultés. Des fois, ça va bien et on voudrait juste se mettre en relation avec d'autres partenaires, surtout dans des professionnels. Et là, dans ce registre-là, on est plus dans un rapport professionnel, c'est-à-dire que on va plus considérer ces jeunes-là dans un rapport de pair à pair, où on se dit ok, on va aller faire un échange, c'est-à-dire qu'on va les solliciter pour participer à des actions, et ils vont faire de l'expérience, un peu de la main d'œuvre, mais ils vont faire aussi de l'expérience. Eux, ça va un peu les professionnaliser en quelque sorte. Et à l'inverse, ben nous, on leur apporte cet encadrement et donc ce suivi. On essaye de dénouer des fois les problèmes qu'ils peuvent rencontrer, qu'ils soient techniques ou des fois humains, parce que des fois, quand on rentre dans un projet, quand c'est la première fois qu'on en fait, on se retrouve confronté avec ses partenaires, tout ça, à des situations, on ne sait pas comment les gérer. Et donc ça peut être aussi de l'accompagnement là-dessus. Donc voilà, Urban et Radiolab, ce sont deux choses assez distinctes, mais c'est aussi, il y a plusieurs voies dans l'accompagnement, je pense. Après, voilà, c'est aussi comment, quel type de public aussi on accompagne.
D'accord, merci. Vous l'avez tous un peu évoqué, donc du coup, la question du rapport au travail. Donc, je pense que c'est une question assez importante. On va en parler juste après une petite pause musicale, peut-être. Thank you.
fever all the time. She's a kind-hearted woman. She studies evil all the time. Yes, to have it on your mind.
h 52 sur Radio Grenouille. On est toujours dans l'émission spéciale Zinc Campus avec tous ces invités autour de nous. Alors, peut-être un mot, Sylvia Andrian, Tim Vandy. Tu réagissais sur l'expression utilisée par Julien de Radiolab et d'Urban Prod, learning by doing, et tu avais l'air d'approuver.
Oui, j'approuve complètement. En plus, j'ai suivi un peu ce que fait Radiolab et je trouve ça vraiment super intéressant de confronter comme ça les étudiants à des réalités professionnelles dans le faire, en fait. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui nous tient à cœur et particulièrement à la Hive, c'est vraiment de réunir ces 20 étudiants pendant 6 mois. En plus, il y a une dimension interculturelle et interdisciplinaire, hein, puisque ce sont soit des designers, des makers, des artistes numériques, des codeurs, des ingénieurs. Mais de les challenger vraiment sur de leur lancer des défis. C'est-à-dire à la fois, ils vont développer des projets qu'ils vont décider eux-mêmes, c'est des grands projets, mais aussi, et je trouve que c'est vraiment ça qui est intéressant, et c'est ça qui intéresse beaucoup de candidats là actuellement, c'est de leur dire, vous allez aussi être challengé sur des problématiques que rencontre la communauté au sein de The Camp, c'est-à-dire tel grand groupe vient, se pose une question, a une problématique, et ben allez-y, hackez-leur le truc, donnez-leur votre avis, et faites avec eux, prototyper avec eux, tester des choses avec eux, que ce soit le grand groupe, la PME, mais aussi pourquoi pas un chercheur en neurosciences qui se pose des questions, qui aurait envie d'avoir un regard créatif. Je crois que cette question-là est vraiment importante parce que quand on dit de quelle façon est-ce qu'on va professionnaliser et accompagner nos étudiants et nos jeunes à rentrer dans la vie active, c'est sûrement en les mettant dans des processus d'apprentissage où ils sont déjà dans l'expérimentation, qui enlève les peurs, donne envie de faire et permet aussi d'itérer en permanence, de se tester, d'accepter l'erreur, d'accepter aussi de collaborer et de travailler ensemble. Parce qu'au final, c'est quand même ça l'enjeu. C'est quand même, au-delà de l'acquisition individuelle de savoir et de compétences, c'est comment je vais être capable de travailler avec l'autre pour être meilleur et pour avoir de meilleures idées pour innover. Et là, ça reboucle avec une question qui me semble importante, c'est on le fait où ? On le fait dans un lieu, on doit le faire dans des lieux qui sont inspirants et donc ces nouvelles façons d'apprendre doivent se faire dans des lieux un peu différents. Et le DSA, justement, dans ce qu'il a en ce moment, je crois, la façon qu'il a de travailler sur l'espace d'apprentissage du DSA, apporte, à mon avis, un début de réponse.
Anne-Catherine, tu veux rebondir immédiatement ?
Je rebondis tout de suite. Effectivement, en fait, les tiers-lieux et puis cette notion de pair à pair dont Julien, tu parlais également pour Radiolab, les tiers-lieux s'organisent aussi, ont une influence ou en tout cas ont un écho dans la manière dont changent, je pense, les relations de travail à l'intérieur des formations, notamment des formations post-bac comme le DSA, moins soumises au rythme très très fort des BTS. Et effectivement, on a une organisation un peu plus diagonale de pair à pair. On incite des gens à repérer en fait les qualités qu'ils veulent atteindre et les profils qu'ils veulent former pour eux-mêmes, plutôt que d'être dans des attentes trop figées du diplôme. Donc d'accepter qu'ils ne savent pas tout. Nous-mêmes, nous sommes en permanence en repérage sur nos propres manques, qui ne sont pas considérés comme des défauts d'enseignants, mais comme des composantes d'un territoire. Donc ça amène effectivement à définir vers quoi on tend, mais également à s'associer et à repérer soit des gens qui ont les mêmes manques que soi, parce que parfois ça permet de doubler le manque, et en mathématiques, moins par moins, ça fait plus, par exemple. Ou alors, on va justement chercher des profils contraires, et ça aide effectivement à ce mixage des profils qui est nécessaire pour dynamiser un territoire, mais qu'on a du mal à organiser, en fait. Donc, je pense que toutes ces tentatives, elles ont aussi pour fonction de créer une lisibilité des croisements de compétences là où on n'est pas habitué à les penser. Donc, il y a cette dimension-là. Et voilà.
Mais après, pour rebondir sur ce que tu disais, Anne-Catherine, par rapport à la question de la lisibilité et ce que disait aussi Sylvia sur ce que génère aujourd'hui des dynamiques comme celle de tiers-lieux, c'est intéressant d'imaginer, et je pense que c'est la raison pour laquelle aussi on a fait un campus à la Friche la Belle de Mai, que ce fut un tiers-lieu avant même qu'on parle de qu'on mette ce terme sur des espaces, en effet, d'horizontalité, de tu parlais du learning by doing, mais Philippe Foulquier, le fondateur de la Friche, son mantra et la façon dont chaque personne arrivant, et moi j'en ai fait partie, était accueillie, c'était qu'on nous disait faites les choses pour apprendre à les faire, et que finalement on s'aperçoit que des espaces qui étaient considérés ou qui ont longtemps été considérés comme des espaces alternatifs ont finalement fini par polliniser à tel point qu'aujourd'hui, alors est-ce qu'on peut considérer que The Camp est un espace institutionnel, un lycée en tout cas ça l'est, à tel point que ces modèles en fait d'organisation et aussi dans la manière dont ils ont toujours su accueillir, tu parlais des talents, mais en tout cas des jeunes qui n'avaient pas forcément envie de suivre une voie trop tracée à la suite de leurs études, sont aujourd'hui des modèles inspirants pour des endroits un petit peu plus institutionnalisants. Et je vais poser du coup une question à Ambre, c'est que d'une certaine manière, dans la voie que vous avez pris jeune sardine, de vous-même, vous avez un peu suivi le parcours idéal d'un étudiant qui sort d'une formation plutôt dans le champ des industries créatives et culturelles, mais qui a envie de se fabriquer son propre métier. Et pour ça, vous avez pu être accompagné à différents endroits de ce parcours.
Oui, c'est ça. C'est vrai que du coup, on est sorti de cette formation en se disant voilà, maintenant on a finalement un diplôme de designer graphique, mais est-ce qu'on a vraiment envie de rester... Alors c'est vrai qu'en étant designer graphique, on peut rester longtemps devant l'ordinateur, faire des commandes, mais pas forcément avoir un rapport avec le public, avec les gens de l'extérieur. Et on s'est dit, on a envie de créer quelque chose qui nous donne envie en fait de continuer et de toujours s'améliorer. Et c'est vrai qu'on avait tous les trois, donc on est trois dans Jeune Sardine, fait nos projets de diplôme sur des ateliers, sur le rapport avec le public, sur le fait de faire participer les gens. Et on s'est dit, c'est vraiment quelque chose qui nous plaît parce qu'on a on garde ce côté créatif et on garde la conception des ateliers, la conception de l'univers graphique, mais en même temps, on s'enrichit avec le public. Et c'est vrai que, donc, au début, on a commencé à travailler, on était les uns chez les autres, donc c'était un peu difficile d'avancer parce qu'on était vraiment un peu bloqué parce qu'on était tout seul au final. Et quand on a pu, donc, aller à la ruche, donc c'est vrai que c'est un espace qui est un peu particulier puisque finalement c'est plusieurs entreprises ou entrepreneurs ou scop, enfin, ou des indépendants même qui du coup travaillent dans le même lieu et du coup échangent leurs compétences. C'est vrai que nous on est arrivés là-bas, c'était un peu les débuts aussi de l'espace de coworking et on était du coup les seuls graphistes en arrivant comme ça et on se disait si jamais vous avez besoin d'aide pour telle ou telle chose, donc par exemple il y avait un anthropologue, il y avait des gens qui travaillaient pour l'électricité, enfin plein de domaines différents, mais toujours dans ce côté économie sociale et solidaire et dans le partage. Et du coup, nous, on les aidait sur des choses également. Et donc, à la base, on était accompagnés que pour 6 mois. Et finalement, on est resté 6 mois de plus dans un principe d'échange comme ça, où on a fait de la communication pour les gens de la ruche, pour la ruche elle-même. Et on a travaillé en collaboration avec eux, notamment sur leur identité visuelle. Et donc, il y a plein de choses qui sont créées comme ça. Ils nous ont renvoyé également vers Intermed pour suivre la formation starter et du coup, donc ça faisait déjà un an qu'on était créé, mais finalement il nous manquait toutes les compétences de gestion, de commercial, enfin plein de compétences en fait qu'on n'a pas forcément à la base et qui du coup nous ont vraiment apporté pour le développement de notre structure.
Anne-Catherine, je te vois réagir.
Oui, moi je voulais juste ajouter quelque chose, c'est que c'est vrai que le design, c'est quelque chose que les gens connaissent mal. En gros, ils disent c'est design pour dire waouh, c'est beau. Ça va se vendre plus cher, mais globalement ils savent pas à quoi ça sert. Ils voient toujours le design dans des objets extrêmement spectaculaires, montrés dans des foires elles-mêmes spectaculaires. Et par exemple, Jaune Sardine fait un travail très important, à mon avis, de vulgarisation de ce que c'est que le design, de compréhension de ce type de partage des formes et de la création d'une culture et d'une communauté autour de ces formes-là. Je pense que la Hive, ça amène carrément le design des projets, comme Zinc d'ailleurs. Et donc, il me semble que ce qui est intéressant dans cette organisation du territoire pour pour toutes les démarches, les dynamiques qui sont exposées ici, c'est qu'elles permettent de créer une connaissance du design au niveau de toute la population, oui, et de hisser progressivement cette compréhension. Et on sait que les pays dans lesquels le design se développe bien, par exemple je pense à la Hollande, sont des pays où la connaissance, la compréhension des enjeux quotidiens du design, pas des beaux objets qui passent vite en voiture, ces enjeux sont maîtrisés très largement par la population. Donc là, je pense que le travail qui se fait, par exemple, dans un territoire comme celui de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est un travail de culture de design complètement partagé. Et ça, évidemment, s'il n'y a pas les tiers-lieux, s'il n'y a pas Zinc, s'il n'y a pas Live, Media Lab, etc., le DSA aussi, eh ben, ça ne peut pas se faire.
Oui, justement, le DSA, vous, comment, qu'est-ce que vous leur racontez à vos étudiants pour que, parce que je suppose que l'équipe de John Sardine qui sort du DSA, ils ont été aussi, ils ont eu probablement leur chakra aussi ouvert à partir de ce que vous avez pu leur enseigner, de la façon dont vous les avez accompagnés par rapport à cette alternative imaginable dans la relation au travail. Anne-Catherine ou peut-être Thomas Ricordeau qui nous a rejoint et que vous connaissez peut-être sur l'antenne de Grenouille, sur la façon dont vous les accompagnez.
Je pense déjà qu'au DSA, on a tenu absolument à ce que les questions de nouvelles technologies rencontre les questions de plus traditionnelles, des formes précédentes en fait d'expression du design graphique qui étaient liées au monde de l'impression. Donc on n'était pas d'accord sur la séparation de multimédia et print. On préférait multi-print et média, enfin je sais pas. Et du coup, parce que l'idée n'était pas d'acquérir simplement de nouvelles technologies, mais de comprendre comment les nouvelles technologies reformulaient la relation qu'on avait à notre environnement et à la compréhension de l'univers. Ça, c'était un point très très important, soutenu aussi par une philosophie de la technique qui permet de mieux nommer les choses, de se méfier d'un certain nombre de mots comme immatériel, disruption, etc., qui sont des mots, à mon avis, assez dangereux. Créativité aussi. Bon voilà, donc faire attention avec un certain nombre de mots qui deviennent peut-être des poncifs et qui permettent derrière de grandes violences relationnelles qui ne sont pas l'enjeu du design. Le design, c'est du chamanisme, c'est de l'articulation des énergies, c'est du pharmacon, essayer de mettre en place des dispositifs dont on voit et les avantages et les dangers en permanence. Donc on avait un peu cette idée-là. Après, il y avait la deuxième idée qui était que, bon, bah, vous savez comment ça se passe, les nouvelles générations savent faire beaucoup plus de choses que vous dans des tas de domaines. Donc quand on est prof, bah, il faut d'une certaine manière faire le deuil d'une relation verticale parce qu'on n'a pas l'ensemble des savoirs. Avec les nouvelles technologies, on se retrouve complètement idiot devant toutes sortes de machines ou toutes sortes d'applications. Donc il faut accepter le fait que l'intelligence devienne collective à ce niveau-là. Donc du coup, on se repositionne aussi sur les enjeux des uns et des autres, et ça permet, si les profs disent eux-mêmes qu'ils ne savent pas ou précisent ce qu'ils savent, les étudiants sont exactement dans la même situation. Donc je crois qu'on avait en fait essayé d'installer une parité qui n'empêche pas parfois une certaine verticalité évidemment dans la conduite des projets, mais qui est tout à fait celle qu'on peut trouver à l'extérieur, dans les tiers-lieux notamment, en sachant que quand on ne sait pas, ben on va aller voir les gens qui savent. Et donc évidemment, comme nous, on ne savait pas où étaient les gens qui savaient, pas toujours, ben on a eu besoin de vous. Et voilà, vous nous avez dit, ben là, nous on sait ça, d'autres savent ça, et ainsi de suite. Et voilà, donc c'est un peu ça qui a peut-être permis de voir les chakras. Ça me fait plaisir.
Alors vous en parliez tous un peu, la question du rapport au travail, tu parles d'horizontalité, est-ce que justement ces tiers-lieux et cette nouvelle manière de fonctionner, de travailler, changent fondamentalement le rapport des jeunes notamment au travail? Sylvia, tu en parlais un peu tout à l'heure.
Est-ce que les tiers-lieux changent le rapport des jeunes au travail? Alors là, j'ai plutôt envie de m'appuyer sur l'expérience des grands voisins, par exemple, à Paris, où on voit bien que beaucoup de jeunes talents artistiques s'installent là-bas et produisent de là-bas et s'impliquent dans la vie du tiers-lieu. Donc oui, j'ai l'impression que les tiers-lieux changent le rapport au travail. C'est difficile de répondre à cette question. J'ai envie de dire que c'est le rapport au travail qui a changé et qui a fait que les tiers-lieux sont devenus une urgence, en fait. notamment beaucoup de gens de ma génération, issus du milieu culturel, professionnels de la culture. J'ai quand même pas mal de pères qui, à un moment donné, ont décidé de se mettre un peu en rupture par rapport à un schéma classique de salariat dans des associations culturelles. Et j'en ai beaucoup, là, quand je vous parle, j'ai beaucoup d'exemples qui me viennent à l'esprit. Et notamment des gens de la Friche, notamment des personnes issues de Zinc ou d'ailleurs. Et je crois que c'est vraiment à un moment donné ce besoin qu'ont eu les gens de faire, d'expérimenter, voire même d'accepter l'échec et d'avancer dans un rapport au travail qui est vraiment une autonome en fait. Et les tiers-lieux, c'est pas les tiers-lieux qui ont changé le rapport au travail, c'est le rapport au travail qui a changé et qui a fait émerger la nécessité, l'urgence de créer des lieux où les gens se retrouvent et puissent partager. J'ai beaucoup aimé ce que vous disiez sur votre arrivée à la ruche et le fait qu'en fait je me disais mais en fait si vous n'aviez pas accepté de donner, vous n'auriez rien reçu en fait. Et c'est aussi ce rapport-là au travail qui est de... On vient dans un lieu où on est prêt à donner, à partager, et puis finalement on reçoit beaucoup et on se professionnalise et on grandit en fait.
Julien, peut-être une réaction sur cette question du rapport au travail de...
Je suis assez d'accord avec ce qu'il vient de dire. En même temps, c'est une question assez vaste. Bon, moi, là, ça résonne beaucoup avec mon propre parcours. Oui. Je vais pas raconter toute l'histoire, donc ce serait assez long. Mais tout ce qu'on dit résonne de A à Z avec le parcours quand je suis rentré dans l'université jusqu'à aujourd'hui. Donc, il y a plein de choses, je pourrais en parler des heures, mais c'est pas très intéressant. Si ce n'est que... on s'adresse là on parle quand même d'une certaine catégorie de jeunes, si on commence à faire des catégories, qui peut choisir ou en tout cas qui a envie de choisir ce qu'elle a envie de faire et comment elle a envie de le faire. Donc l'idée c'est d'accompagner ça, parce que peut-être qu'après il va y avoir comme une viralité en quelque sorte qui va faire que ça va créer une dynamique, un mouvement qui va faire qu'on aura tous plus envie de faire ce qu'on a envie de faire, etc. Donc par exemple Urban, j'ai quitté Grenouille pour Urban, je l'ai fait comme un choix, je l'ai pas subi. Et Urban par exemple, j'y vais en me disant ok, tous les jours je me dis qu'est-ce qui va me motiver à y aller. Et finalement, je pense que c'est cette dynamique-là qu'une forme de jeunesse cherche, mais qui a toujours été, mais peut-être la plus, de dire, ok, quelles vont être les conditions dans mon travail qui vont me donner envie d'y aller? Est-ce que mon travail, c'est pas déjà ma vie? Donc, est-ce que je peux pas mettre un bout de ma vie dans le travail sans que ça devienne aliénant? Mais justement, comment on peut intégrer dans ces lieux, dans son lieu de vie, des choses qui nous motivent et qui font que ça nous porte plus que si on allait pointer pour répondre ou à répondre à des commandes ou des prestats. Donc, ça, de le partager. Et finalement de créer aussi un espace de vie qu'on peut aussi ouvrir à d'autres, il y a une forme d'engouement aussi. Donc c'est quelque chose de très motivant, et je pense que qu'on s'en rende compte ou pas, c'est ça qui nous pousse, c'est cette motivation de dire ok, on a envie de créer de changer le monde. Ouais, ça c'est au fond c'est ça. Mais
est-ce qu'il y a pas un risque quand même à contrario de que tout le monde devienne un peu des jeunes entrepreneurs, un peu le rêve de la France de Macron dans ce que tu dis aussi?
Ah, je sais pas. Je sais pas, après...
Il est où le risque?
Ouais, je sais pas s'il y a risque.
Une pression ou pas, hein, ça peut être un débat, mais est-ce que tout le monde se prenne en charge son propre avenir en étant tous des jeunes start-upers en puissance?
Moi, je dirais pas que... Comment dire, il n'y a pas forcément un aspect mercantile à se dire ok, je vais entreprendre, etc. Il n'y a pas tout de suite, on se dit pas forcément je vais le faire, ça va me rapporter à moi. Je pense que l'idée là, en tout cas dans cette que je pense qu'autour de cette table la plupart on défend, c'est de se dire que effectivement on peut agir pour soi, mais aussi avec les autres et pour les autres. Donc c'est pas forcément, pour moi, si on devait un peu schématiser, alors du coup Macron ce serait ok, j'entreprends mais pour moi et que pour moi, et tout le monde qui va entreprendre pour soi va faire que tout le monde va avancer un peu dans le même sens, alors que là c'est pas forcément le cas. Peut-être qu'on s'arrête ensemble, mais on s'arrête ensemble. Donc, et on reprendra peut-être différemment et on se retrouvera après. Enfin, vous voyez, on n'est pas sur un chemin où tout le monde suit la même ligne, mais on garde quand même un dynamisme qui va être, ok, à un moment donné, je peux choisir moi-même et j'essaye de limiter en tout cas ce qu'on m'impose, quoi. Enfin, bon, c'est comme ça que je vois les choses.
14h11 sur Radio Grenouille, on fait une petite pause musicale avant de nous retrouver pour cette émission spéciale Zinc Campus. On est toujours dans l'émission spéciale Zinc Campus. Donc on a ouvert le débat sur le rapport au travail et les tiers-lieux, donc ça a été riche même pendant la pause musicale. Peut-être que Sylvia, tu voulais rebondir justement sur ce que disait un peu Julien juste avant la pause. Tout le monde voulait réagir, mais peut-être qu'on va faire un ordre.
Je vais vite rebondir, mais je pensais que tu voulais rebondir Thomas d'abord.
Thomas, oui, peut-être.
Je laisse la parole à Thomas.
On ne t'a pas présenté, donc aussi enseignant... ODS.
Ouais, tout à fait. Mais Julien parlait de changer le monde. Je pense qu'il y a un bouquin qui est assez connu maintenant avec une préface de Bernard. Il y a un bouquin de Michel Bowens qui s'appelle Sauver le monde et très clairement on parle de ça, quoi. C'est-à-dire que effectivement on avait le modèle plus ancien qui était celui effectivement du rapport à l'emploi, ce qui est différent du travail, où on avait une articulation essentiellement entre l'État et le marché, quoi. Voilà. Et ce qu'ont ouvert les tiers-lieux, en tout cas, il y a un nouvel espace qui s'est ouvert, mais qui existait déjà, notamment au Moyen-Âge, c'est ce qu'on appelle les communs, quoi, les commons. Et donc, Bowens parle très clairement de ça. Il dit on passe d'une biarchie à une triarchie, c'est-à-dire qu'on va avoir une articulation entre non plus seulement l'État et le marché, mais on va avoir une articulation entre l'État, le marché et les communs, dont fait par exemple partie Wikipédia ou les tiers-lieux, quoi. Et là, on va avoir un nouvel espace qui va s'ouvrir, un petit peu comme. Je pensais à l'idée d'ouvrir un espace de créativité, etc., où on va pouvoir enfin s'exprimer et justement ne plus assimiler nécessairement son emploi du travail et vice-versa. Et on va pouvoir définir vraiment de nouveaux espaces de travail, quoi. Donc ça, c'est un truc qu'on a essayé d'impulser dès le départ, en tout cas chez nous, et ça correspondait quand même à un optimisme après l'effondrement notamment de la bulle internet auquel moi j'ai assisté d'assez près, où on avait des gens qui travaillaient en open space et quand tout s'est effondré dans le courant des années 2000, on jouait plus au baby ensemble autour de Coca-Cola, etc., mais on attendait de savoir qui allait sortir le premier, quoi. Voilà. Donc je pense que là, on a eu quand même un basculement complet. Il fallait absolument changer de modèle. En tout cas, nous, graphistes, on ne pouvait plus pratiquer le même.
Anne-Catherine, tu voulais réagir à cette notion d'optimisme, peut-être ?
C'est-à-dire que moi, je pense que les étudiants ont absolument besoin d'optimisme. On ne peut pas se dire qu'on va devenir un professionnel du... C'est quoi l'inverse de l'optimisme? Du pessimisme. Mmh. On ne peut pas se dire qu'on va construire un monde déconstruit. Enfin, on est bien obligé de chercher une énergie. Et je crois que tout ce dont on parle là permet d'abord de vivre et travailler où on est. On n'est pas obligé d'aller rejoindre une start-up à l'autre bout du monde. On peut vivre... Choisir au fond du territoire, on peut choisir les gens avec qui on a envie de construire et on peut choisir quels sont à la fois les moyens qu'on aura de se sustenter, d'avoir un modèle économique qui fonctionne et en même temps de partager des valeurs qui vont construire un monde plus costaud, enfin plus, un maillage plus fort. Donc il me semble qu'on ne peut pas faire de l'enseignement et notamment pas de l'enseignement du design, mais de n'importe quoi, si on ne peut pas distiller d'enseignement, dans cet enseignement des perspectives qui sont stimulantes et qui permettent de penser que ça vaut le coup de s'engager dans les années qui viennent. Et si on pense ça, à mon avis, le travail, on le fabrique, l'emploi, on l'invente, avec toutes les difficultés que ça comporte. Mais quand on voit Ambre et Jaune Sardine, ils ont rebondi très vite.
Justement, ça vaut le coup.
Oui, c'est ça.
Voilà.
Oui, c'est vrai qu'on sort du schéma classique du travail, mais c'est sûr qu'il y a une part de galère au début, mais il y a la motivation et le fait d'avoir envie de s'enrichir, d'évoluer et justement de partager des valeurs avec d'autres acteurs du monde, on va dire, ou plus précisément de la région PACA pour le moment. Mais par exemple, il y a aussi le côté où on peut s'adresser, donc, comme on disait, à des gens qui ont des compétences et justement, nous, se réapproprier des compétences ou des savoirs qu'on n'avait pas ou qu'on avait perdus. Et je pense notamment, parce que tout à l'heure, quelque chose m'a fait penser au Fab Lab, justement, et nous, on s'en sert beaucoup. Donc, c'est vrai que c'est un lieu de création qui permet d'avoir accès à des machines auxquelles on ne pensait pas du tout avoir accès avant, ou on ne pensait pas pouvoir s'en servir ou réussir à s'en servir. Et ça peut servir pour tout un tas de choses. Donc, on crée tous nos outils graphiques là-bas, et maintenant, on sait se servir des machines, mais grâce aux gens qui étaient dans les Fab Labs, on a réussi à se réapproprier le fait de créer nous-mêmes des éléments finis, on va dire.
Alors, moi, ça me fait penser à une question qu'on s'est posée avec Margot en préparant cette émission, et on ne savait pas si on aurait le temps de la poser, mais on a pas mal parlé du territoire. Tu as donné le mot région PACA. Il y a manifestement beaucoup de pensées, voire de visions, et on a aussi parlé d'optimisme et de choses concrètes. La question qu'on se posait avec Margot, c'est est-ce que le territoire, et notamment d'un point de vue politique ou institutionnel, est conscient de ces dynamiques qui sont à l'œuvre? Je regarde directement Sylvia avec cette question. Et est-ce que The Camp, c'est pas aussi une manière de faire émerger ou peut-être donner peut-être un petit peu plus de clés de compréhension autour de ces dynamiques à l'œuvre qui sont peut-être un petit peu impalpables, mais qui sont par contre nécessaires pour la vitalité d'un territoire?
Oui, tout à fait. En fait. Tout à l'heure, tu t'as dit tout au début de l'émission, je ne sais pas si The Camp, c'est finalement une structure déjà institutionnelle ou pas. Ouais. Ça me permet de réagir, de dire non, The Camp, c'est pas une structure institutionnelle. Par contre, c'est une structure qui a su mettre autour de la table à la fois des acteurs privés et des acteurs publics. Et l'enjeu de The Camp, c'est vraiment ça. C'est de créer un espace où acteurs publics et acteurs privés vont travailler ensemble sur la façon de voir le monde demain et comment, de façon très opérationnelle, on va pouvoir y travailler. Actuellement, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais on travaille de façon très très proche avec la métropole parce que, évidemment, The Camp est installé sur la métropole et il y a un fort enjeu de créer ce territoire, de designer ce territoire, de designer le projet du territoire métropolitain et ses enjeux. Et donc, il me semble qu'en effet, évidemment que beaucoup de gens travaillent sur la question de l'innovation publique. Hein, je citerai la 27e région, beaucoup d'acteurs même ici, à Marseille, à leur manière accompagnent les politiques publiques dans une nouvelle forme d'innovation publique. la plus-value de The Camp, effectivement, et le fait que peut-être ça va créer un levier, un effet levier, ça, ça permet peut-être modestement d'accélérer un petit peu la prise de conscience, c'est en effet que c'est un lieu qui est ici à vocation internationale et qui permet de travailler avec des experts de tous les horizons, à la fois locaux et internationaux. Donc en effet, peut-être que une des responsabilités de The Camp, c'est bien d'accompagner une nouvelle façon de penser, un nouvel état d'esprit, celui que je décrivais tout au départ et que vous avez relevé, cette idée de changer le monde, d'être optimiste et de d'expérimenter et de le partager avec ses partenaires publics et avec les élus, etc. Voilà.
Tu voulais réagir, Thomas, peut-être sur cette question d'un territoire institutionnel et politique qui serait mûr dans la compréhension des enjeux dont nous discutons ?
Non, bah après, ce qu'on peut dire, pour repositionner peut-être la question du design, en fait, de manière un petit peu macro, quoi, c'est qu'effectivement, le design, c'est d'abord la production de formes de vie, en fait. C'est-à-dire que c'est plus une faculté que quelque chose qui va s'incarner de manière transitoire dans des objets, en fait. C'est vraiment la constitution et la création de milieux. Donc, avec The Camp, notamment, je pense que c'est complètement ça, quoi. Et effectivement, tu l'as dit très clairement, on est à cheval, justement, entre le marché et l'État, et on essaie de faire média, en fait. Donc le design, c'est aussi ça, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va essayer de mettre en place des transactions, une économie, une écologie, en fait, justement, dans les échanges à la fois symboliques et matériels. Ça peut être des biens monétaires, ça peut être des tas de choses, en fait. Voilà. Mais on va essayer de faire transaction là-dedans, quoi, et de produire un équilibre, quoi. Voilà. L'écologie, c'est bien ce que ça veut dire. C'est à la base, c'est oikos, c'est-à-dire le soin porté à la maison, l'administration de cette maison. Et ça a besoin à la fois d'énergie et de transfert, en fait, de valeur, quoi. Voilà. Donc juste pour finir là-dessus, effectivement, le design pour nous, en tout cas, c'est bien la création et la formation d'un milieu, d'une sorte de biotope, en fait. Voilà. Qui permet de faire médiation entre toutes ces valeurs.
Nous utilisons vraiment, on se reconnaît complètement dans ce que tu viens de décrire et on utilise justement des méthodologies issues du design, notamment sur des projets justement métropolitains, comme par exemple un projet qui réfléchit aux nouvelles façons de se déplacer à l'échelle de la métropole pour éviter l'utilisation de la voiture individuelle. Donc c'est un projet sur lequel l'Urban Lab de The Camp est impliqué, travaille, et là on est sur des phases de montage de projets à la fois sur des problématiques de technologie mais aussi de design de projet. Et on utilise effectivement ces méthodologies dont vous parlez.
Juste pour boucler ça, c'est effectivement, pour nous, le design, c'est plus quelque chose qui a un rapport au biologique que véritablement quelque chose qui va avoir avec Stark ou je ne sais qui.
C'est ouais. Ça, ouais, c'est l'écosystème, en fait. Mmh. Et juste, je voudrais quand même revenir tout à l'heure, parce que je n'ai pas pu sur cette idée on a dit, ah oui, mais si tous les jeunes veulent maintenant renouveler leur rapport au travail et devenir des entrepreneurs, est-ce qu'il n'y a pas un danger? Est-ce qu'on ne va pas tous se macroniser?
Margot a dit ça.
Alors,
c'est un peu provocateur.
Moi, je crois que là, c'est vraiment clivant et ce n'est pas le problème, en fait. Aujourd'hui, on ne demande pas à tout le monde de créer son entreprise. On ne demande pas à tout le monde d'avoir un projet. L'objectif de ça, le nouveau rapport au travail, c'est pas créer ta start-up, a une idée, va lever des fonds et développe ta start-up et tu vas devenir une licorne. Non, il y a des gens qui vont développer des projets, il y a des gens qui ont une capacité à monter des entreprises, mais il y a des gens qui n'ont pas d'idées, mais qui sont vraiment de très forts collaborateurs. Il y a des gens qui sont créatifs, il y a des gens qui vont être plus opérationnels. Et l'enjeu aujourd'hui dans la nouvelle façon de penser le travail, c'est vraiment la question de l'intelligence collective et la capacité de travailler en commun. Et moi, du coup, je rejoins cette question des communs. C'est vraiment ça, aujourd'hui, l'enjeu. C'est pas, oh mon Dieu, ah bah ça y est, on va tous perdre nos emplois parce qu'on va tous devoir devenir entrepreneurs, sinon on va rien réussir. Non, non. L'idée, c'est vraiment, et c'est ça qu'on essaie d'insuffler, c'est comment on travaille ensemble et comment on est capable de donner, de prendre et de vraiment créer de l'intelligence collective au service d'un projet qui a du sens et qui va nous permettre de générer une activité économique qui va nous faire vivre et nous faire travailler.
Julien, par rapport à... peut-être que tu voudras rebondir là-dessus, mais moi j'aimerais bien quand même que cet optimisme qui est très agréable, moi je me demande, les jeunes au sortir du dispositif de Radiolab, étudiants plutôt en journalisme, com, etc., la réalité, et notamment par rapport à ce que disait Sylvia, est-ce qu'elle est aussi évidente? C'est une question que je voulais aussi poser au DSA, savoir qu'est-ce que deviennent vos étudiants. Après, là, le temps commence un peu à nous manquer, mais en tout cas, sur la question des jeunes qui sont plutôt dans le champ des médias, sur au sortir du dispositif Radiolab.
Alors, je vais faire une réponse un peu de normand. Et
puis, un petit peu courte, comme ça, on fait une petite fin optimiste.
Je parlerai que pour ce que j'ai pu voir. Si on parle vraiment que de la question des médias, aujourd'hui, si on fait des études autour du journalisme, par exemple, on a des formations quand même très, très typées, très, très orientées et dont bien souvent, je dis bien souvent, je ne fais pas une généralité, je dis bien souvent, l'idée, c'est l'employabilité. Donc, on va essayer de former des jeunes et reproduire un schéma par rapport au marché. Et donc, là où il y a on va essayer de mettre des petites briques qui vont rentrer parfaitement dans les cases. Donc, là-dedans, comme c'est un métier saturé, des fois, il y en a qui arrivent, il y en a qui n'arrivent pas. À Radiolab, on essaye, pour moi, c'est un peu comme quand on était au collège avec la conseillère d'orientation. Elle a un fichier avec tous les métiers, mais c'est un fichier fini, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas de nouveaux. Donc l'idée, c'est de se dire, ok, comment on peut penser à créer son propre métier et, ou alors à s'insérer dans une case avec dedans un petit code génétique qui nous fait qu'à un moment donné, on va diffuser un virus où on va prendre en tout cas plus qu'on va donner ou en tout cas, on va y trouver notre place quand même. Donc, au sortir de Radiolab, si je regarde qui est... Il y en a qui ont réussi à trouver des choses, il y en a qui se sont insérés dans les médias avec une forme de plus-value parce qu'ils ont ouvert leur horizon. Il y en a qui ont fabriqué leur métier. Moi, j'en fais partie, par exemple. Et puis, y en a qui ont tout simplement suivi une voie normale et traditionnelle.
Donc, en fait, l'alternative, c'est l'avenir. Et vous, Ambre et Jeune Sardine, vous en êtes l'exemple parfait de la question d'une forme d'alternative dans la manière dont on s'inscrit sur pas le marché du travail, mais en tout cas la question de l'activité qu'on a envie de développer.
Oui, c'est ça. C'est vrai qu'on essaye nous-mêmes de développer notre activité. Après, à savoir comment évoluer par la suite, comment réussir à s'y retrouver aussi financièrement, parce qu'il y a quand même un côté financier, même si l'intérêt quand même de notre travail, c'est de travailler justement en collaboration avec tout le monde. Mais c'est vrai que le partage de compétences et le fait de se mettre nous-mêmes au sein d'un réseau, d'un groupe, c'est quelque chose qui nous a donné envie de continuer, en fait, et de pousser plus loin la démarche.
Il reste 2 minutes. Est-ce que un d'entre vous serait partant pour le mot de la fin sur cette heure pendant laquelle on a fait à la fois preuve d'exemples concrets et puis de beaucoup d'optimisme, peut-être pas très prospectif, on s'était dit que peut-être on pourrait aborder cette question-là. Est-ce que vous pensez que l'avenir va affirmer ce qui a été dit pendant cette heure, Thomas?
Oui, enfin moi je sais pas, comme tu le sais, je suis pas forcément de nature optimiste.
Ah oui,
je suis de nature réaliste. Voilà. Et je pense que effectivement de toute manière, après on n'a pas le choix non plus.
Ouais.
Je pense que très clairement, on sait aujourd'hui, j'ai écouté une émission ce matin, a priori on va faire face à des augmentations de température d'environ 5 degrés sur la surface du globe.
On s'en rend bien compte dans le studio.
On sait bien que dans les villes ça sera même au-delà, parce qu'on a d'autres effets en fait extrêmement locaux, donc ça sera plutôt au-delà de 7 degrés, donc on n'a pas trop le choix. Donc effectivement, il va falloir créer des poches de résilience, en fait, et de transformation totale. Et effectivement, là, on parlait d'écologie, de biologie, etc. tout à l'heure, il faut travailler là-dessus. Sinon, on va passer dans un trou de souris. On sait très bien que notre survie, elle tient effectivement à une poignée de, je dirais même pas de siècles. On est effectivement sur quelques décennies là maintenant. On le sait très très bien. Et alors, juste, j'avais fait une petite sorte de performance il y a quelques temps. On commence à croire que effectivement la disparition, par exemple, de Néandertal aujourd'hui est essentiellement liée justement à une incapacité à transformer en fait son milieu, quoi. Et donc on est en train d'assister peut-être nous aussi à notre propre fin si on n'est pas capable de transformer notre milieu.
Donc la question de la transformation, c'était bien ce dont il s'agissait lors de cette heure, et la capacité en effet de transformer son environnement, y compris et à commencer par les jeunes qui sont étudiants. Donc venez les rencontrer cet après-midi à partir de 15h et jusqu'à 20h. Il y a un apéro à 18h30 autour de Zinc Campus et de leurs travaux de fin d'année, les étudiants du DSA Design et de Satis Audiovisuel Université Aix-Marseille.
Pour les étudiants en design, il y a un site qui s'appelle Toner Kebab, T-O-N-E-R Kebab, et sur lequel il y a un wiki dans lequel les différents projets sont également documentés.
Merci beaucoup à vous tous d'avoir été là et d'avoir participé.
Merci
à Céline pour avoir animé, et merci aussi à Gilles pour la technique. Bon après-midi à toutes et à tous.
Can I talk to you a minute?
No.
What do she mean, no?
You didn't get it straight from the gate. That's what she means. But it's all right, you know. Sometimes those things happen, man.
But when I asked her, she said, "That's not what's wrong."